de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Vol supplémentaire contribue à augmenter les visites touristiques. Ministre des Affaires maritimes et de la pêche de la République d'Indonésie vise des exportations de produits de la pêche de 7,2 milliards de dollars américains. Intérêt des investisseurs du Moyen-Orient pour l'Indonésie était toujours élevé. Indonésie attire toujours les investisseurs à Dubaï. Pêche mesurable augmente les exportations. Garde électorale souligne les violations potentielles de la neutralité à l'étranger. NIU, États-Unis, souhaite construire un campus de troisième cycle de l'IKN. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le ministre indonésien du tourisme et de l'économie créative, Sandiaga Uno, est optimiste quant à la possibilité d'atteindre l'objectif de 14,3 millions de visites touristiques étrangères en 2024. Cela a été transmis par Sandiaga Uno lors d'une conférence de presse de Jakarta mercredi 10 janvier 2024. Même si il se montre optimiste, Sandiaga Uno se méfie du nombre limité de vols et de la disponibilité limitée des sièges. Il est reconnaissant qu'en janvier, il y ait eu des vols supplémentaires de plusieurs compagnies aériennes telles que Qatar Airways vers Kuala Namu, Medan, Sumatra Nord et Juneyao Airlines vers Bali.
Dan bulan Januari ini tentunya kita harus bersyukur penambahan penerbangan.
En janvier, bien sûr, nous devons être reconnaissants. Nous réaliserons des vols supplémentaires en provenance du Moyen-Orient, notamment du Qatar à Kuala Namu le 15 janvier, ainsi que des vols vers Bali depuis la Chine, Juneyao. Sandiaga Uno a expliqué plus en détail. Juneyao Airlines volera à la mi-janvier 2024. Puis, en février, il y aura également des vols supplémentaires pendant un mois entier en utilisant le Boeing 787. Le ministre indonésien des Affaires maritimes et de la pêche, Sakti Wahyu Trenggono, vise des exportations nationales de produits de la pêche de 7,2 milliards de dollars américains en 2024. Trangono, dans les perspectives et le programme prioritaire pour le secteur maritime et de la pêche. À Jakarta, mercredi 10 janvier, il est convaincu que cet objectif sera atteint grâce à un programme de pêche mesurable élaboré dans le règlement gouvernemental numéro 11 de 2023. La pêche nationale sera de plus en plus bien surveillée car elle se concentrera sur la capture de certains poissons conformes à la demande du marché ou des besoins. À cette occasion, Trangono a également visé la production de la pêche en 2024 pour atteindre 30,85 millions de tonnes et une croissance du produit intérieur brut de la pêche de 5 à 6%. Il a déclaré que cette année, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a reçu un budget de 7,1 billion de roupies avec une proportion de dépenses opérationnelles de 3 000 milliards de roupies et de dépenses non opérationnelles de 4 000 milliards de roupies. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Salahuddin Uno, a déclaré que l'intérêt des hommes d'affaires du Moyen-Orient à investir en Indonésie est toujours très élevé, y compris dans le secteur du tourisme. C'est ce qu'a déclaré Sandiaga Uno à propos de sa visite à Dubaï, aux Émirats arabes unis et à Jeddah, en Arabie saoudite. Il y a quelque temps, où il a offert des opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme et de l'économie créative. Dans une note hebdomadaire avec Sandi Uno à Jakarta mercredi, le ministre du Tourisme et de l'Économie créative a déclaré que l'Indonésie offre des opportunités d'investissement dans plus de 10 zones économiques spéciales. Dans le secteur du tourisme et de la création, 5 destinations touristiques super prioritaires, les ZES, proposés comprennent la ZS de Mandalika dans le centre de Lombok, la ZS de Tanjung Kelayang à Belitung, la ZS de Likupang au nord de Minahasa, la ZES de Tanjung Lesung à Pandeglang, la ZS de Nongsa à Batam, la zone économique spéciale au ZS du Lido à Bogor, la ZS de Singhasari à Malang et la zone économique spéciale ou ZS de Morotai dans les îles Morotai. Offre d'investissement de l'Indonésie dans 5 destinations super prioritaires, dont Borobudur, le lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo. En outre, Sandi a révélé que les investisseurs de Dubaï aux Émirats arabes unis commencent désormais à cibler leurs investissements dans le secteur du tourisme et de la création en dehors de Dubaï, en tant que plaque tournante stratégique. Dubaï examinerait le potentiel d'investissement en Indonésie. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, a rencontré des investisseurs et des entrepreneurs de Dubaï lors de sa visite de travail aux Émirats arabes unis, les 4 et 5 janvier 2023, dans The Weekly Brief with Sandi Uno, mercredi 10 janvier 2024 à Jakarta, Sandi a déclaré « L'Indonésie attire toujours les investisseurs de Dubaï qui souhaitent investir leurs capitaux dans divers secteurs, notamment le tourisme et l'économie créative, car l'Indonésie est considérée comme ayant une bonne économie et les commodités fournies par le gouvernement jusqu'à présent. » Lors de sa rencontre avec des investisseurs de Dubaï, Sandi Uno a également proposé le programme Golden Visa et les zones économiques spéciales pour investir dans le secteur du tourisme et de l'économie créative.
Mon paragraphe juga menawarkan programme Golden Visa.
Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative propose également un programme Golden Visa ainsi que plusieurs zones économiques spéciales qui ont été créées pour répondre aux intérêts des investissements dans les secteurs du tourisme et de l'économie créative.
Sandiuno a en outre déclaré que les investisseurs de Dubaï sont également intéressés par le développement de projets immobiliers en Indonésie, notamment à IKN. Selon Sandi, le gouvernement doit agir ensemble et collaborer pour développer tout le potentiel d'investissement. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Sakti Wahyu Trangono, a déclaré que la politique de pêche mesurable est basée sur des quotas vise à augmenter les exportations tout en maintenant la durabilité de l'écosystème marin. Trangono, lors du séminaire sur les stratégies de protection de la région de l'île de Java à travers la construction d'une digue géante à Jakarta mercredi, a déclaré que la pêche en Indonésie était considérée comme trop libre, sans aucune réglementation des quotas, de sorte que d'autres pays étaient réticents à importer du poisson d'Indonésie. Par conséquent, le gouvernement a publié le règlement gouvernemental numéro 11 de 2023 qui réglemente, entre autres, les zones de pêche, le nombre de poissons capturés et le nombre de navires pouvant pêcher. En outre, Trangono a déclaré que le potentiel des ressources marines à l'échelle mondiale est très important et qu'une stratégie est donc nécessaire pour devenir l'un des principaux acteurs. Il a déclaré que le marché mondial des fruits de mer a atteint 730 milliards de dollars américains par an. En 2022, elle vaudra 338 milliards de dollars américains. C'est pour cette raison que le ministère des Affaires maritimes et de la pêche encourage l'exploitation des ressources non seulement sur terre, mais aussi à commencer à travailler dans le secteur maritime à base d'océan, compte tenu de l'énorme potentiel économique. En tant que pays maritime, la production halieutique de l'Indonésie a été enregistrée à 2,3 millions de tonnes avec une valeur de production halieutique atteignant 45 000 milliards. L'initiateur de l'Association de surveillance des élections générales de la République d'Indonésie, Wahyu Susilo, a souligné le potentiel de violation de la neutralité lors de la tenue des élections de 2024 à l'étranger, considérant que la majorité des ambassadeurs et chefs de représentants sont issus de partis politiques ou des bénévoles. Wahyu, lors de sa participation à la discussion hebdomadaire sur le Jaga Pemilu à Jakarta, a déclaré mercredi que le rôle d'un ambassadeur ou d'un représentant du chef de l'État était très crucial pour maintenir la neutralité des élections générales. Outre le poste d'ambassadeur, le rôle d'attaché de défense est très fort, car il est directement impliqué dans la sécurité et fait partie du bureau électoral. Dans ces conditions, Wahyu estime nécessaire de disposer d'un bureau électoral spécial placé sous le commandement du ministère des Affaires étrangères, chargé de superviser le déroulement des élections à l'étranger. Selon Wahyu, en 2004, 2009 et 2014, il existait un bureau électoral géré par le ministère des Affaires étrangères, ce qui était très utile pour organiser des élections à l'étranger, assurer la distribution, etc. Wahyu, qui est également directeur exécutif de Migrant Care, a recommandé au gouvernement que les organisateurs d'élections à l'étranger soient permanents. L'autorité capitale de Nusantara au IKN a révélé que la Northern Illinois University, NIU, aux États-Unis était intéressée par la construction d'un campus de troisième cycle à l'IKN. Le chef de l'IKN, Bambang Susantono, a déclaré que le développement de la capitale Nusantara IKN faisait partie de l'expérience indonésienne. Bambang à Jakarta, mercredi 10 janvier, a déclaré que le développement de l'archipel en tant que ville forestière durable conforme à la campagne mondiale sur les objectifs de développement durable, le changement climatique et la biodiversité est un laboratoire vivant pour le monde. Le chef de l'autorité capitale de Nusantara, Bambang Susantono, a discuté avec la présidente de la Northern Illinois University, NIU, Lisa C. Freeman, de l'intérêt de la NIU à participer à la fourniture d'un enseignement de niveau international dans l'IKN Nusantara. La présidente de NIU des États-Unis, Lisa C. Freeman, a exprimé le désir de NIU de participer au développement de l'IKN. NIU est proche de la région de l'Asie du Sud-Est avec la création du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est depuis 1963. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers amis, voici donc l'accueil diplomatique dont le titre est « Le concours vidéo pour renforcer la vision commune ASEAN-Chine ». L'ambassadeur de la République d'Indonésie en Chine et en Mongolie, Jauhari Ortmangun, a déclaré que le concours vidéo « Mon histoire avec la Chine » pour aider à réaliser la vision commune ASEAN-Chine. Il l'a exprimé lorsqu'il était l'un des principaux intervenants lors de l'annonce du concours vidéo « Mon histoire avec la Chine, destinée aux étudiants internationaux de l'ASEAN à Pékin, Tianjin et Hebei, organisée par l'Université normale de Tianjin samedi le 6 janvier dernier. Selon l'ambassadeur Jauhari, les relations entre l'ASEAN et la Chine sont devenues plus étroites depuis qu'elles sont devenues partie intégrante d'un partenariat stratégique global il y a 2 ans. Les échanges commerciaux entre l'ASEAN et la Chine ont augmenté au cours des 4 dernières années. L'ASEAN et la Chine sont les plus grands partenaires commerciaux au monde et les deux parties mènent également une coopération en matière d'investissement. L'ambassadeur Jauhari estime que si le troisième pilier de l'ASEAN, à savoir la coopération entre les peuples, est renforcé, les relations entre la Chine et la Chine deviendront plus fortes dans les années à venir. Par ailleurs, le directeur général du Centre pour l'enseignement des langues et la coopération du ministère chinois de l'éducation, Ma Qianfei, a souligné lors du même événement l'importance des relations entre la Chine et l'ASEAN et le rôle important de la jeunesse dans la promotion des échanges culturels. Il a encouragé la collaboration pour aider davantage de jeunes de l'ASEAN à partager des histoires tout en apprenant le mandarin. Le concours vidéo sur le thème « Mon histoire avec la Chine » a été organisé par le Centre pour l'enseignement des langues et de la coopération et Centre ASEAN-Chine, soutenu par la Société internationale pour l'enseignement des langues chinoises, la presse éducative chinoise, les communautés d'éducation Pékang Tianjin et Bei. Le comité a reçu 306 vidéos sur une période de 8 mois et a impliqué plus de 3000 étudiants et professeurs ainsi que 62 organisations. Les gagnants ont été sélectionnés à travers du vote en ligne qui atteint 20 000 voix. Un certain nombre d'étudiants indonésiens sont devenus lauréats dans la catégorie jeunes talents, à savoir Clarissa et Tiffany du campus du Conservatoire de musique de Tianjin. Elles ont interprété en duo avec piano. Uli de Fitri, étudiante de l'Université normale de Pékang, a gagné dans la catégorie Star of Style. Pendant ce temps, Gilbert Lee et ses amis de l'Université normale de Hebei ont gagné dans la catégorie Étoile du futur pour avoir chanté la chanson Aichi de Ta Cheng Shuo, ou souvenez-vous quand il a dit. C'est Jurita, c'était la quête diplomatique pour ce soir. C'est Jurita, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 11 janvier 1962, tragédie de la valance de glace du mont Waskarang. 4000 personnes sont mortes. Le 11 janvier 1962, une puissante avalanche de glace et de neige s'est produite sur le mont Waskarang au Pérou. Lorsque la plupart des habitants de la région se rassemblaient ces jours pour le dîner, le bord du glacier géant du mont Waskarang s'est soudainement brisé et s'est effondré la nuit. L'avalanche a emporté les habitants en contrebas. Les villes de Rangrahika et Waraskusho ont été ensevelies sous la glace. On estime qu'environ 4000 personnes sont mortes dans l'avalanche, mais le nombre exact n'a jamais été connu. Passons à l'événement du 11 janvier 1922, l'insuline est utilisée pour la première fois pour le traitement. Le 11 janvier 1962, l'insuline a été utilisée pour la première fois dans le traitement du diabète. L'insuline a été découverte par Sir Frederick Grant Banting, Charles H. Bess et J.J.R. McLeod à l'Université de Toronto en 1921. Avant 1921, les personnes atteintes de diabète de type 1 ne vivaient pas plus de 2 ans. L'une des plus grandes découvertes médicales du XXe siècle reste aujourd'hui le seul traitement efficace pour les personnes atteintes de diabète de type 1. Il a été prouvé que l'insuline aide les personnes atteintes de diabète sucré. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la journée internationale de remerciement. La journée internationale de remerciement est célébrée chaque année le 11 janvier. Cette journée nous rappelle l'importance d'être reconnaissant envers les personnes de son entourage, notamment envers celles qui ont contribué ou fait quelque chose. On ne sait pas avec certitude toute l'histoire. L'auteur est depuis quand la journée internationale de remerciement a été célébrée? La Journée internationale de remerciement a été créée par plusieurs sociétés de cartes de vœux pour promouvoir la vente de leurs cartes. Jusqu'à présent, la journée internationale de remerciement est toujours célébrée dans diverses régions du monde chaque 11 janvier. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Break the walls and steal the show. Gonna do what feels right, even when they tell me no. This is my game. No, I don't complain, no, no. I got the guts, I'll be alright. Yes, I got the skills, I know. Dream high, high, high. That's the only way to go. Cause I got here on my own.
C'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie. Et pour le titre, Brin développe de nouvelles variétés sorgho sucré pour le bioéthanol. L'Agence nationale de recherche et d'innovation, BRIN, développe une nouvelle variété sorgho sucré à haute teneur en sucre pour fabriquer du bioéthanol comme carburant à faibles émissions. Le chef du centre de recherche sur les cultures vivrières de BRIN, Yudhistira Nugraha, a déclaré lundi à Jakarta que sa partie cible les nouvelles variétés ayant une teneur en source ubrique supérieure à 20%. Yudhistira a déclaré qu'il existe actuellement deux variétés de sorgho sur le marché, à savoir Super 1 et Bioguma, qui ont une valeur ubrique d'environ 15 à 18%. Les deux anciennes variétés appartenant au ministère de l'Agriculture ont de petites tiges et elles ont donc tendance à s'effondrer. Tandis que les nouvelles variétés actuellement développées ont un degré bix élevé allant jusqu'à 20% de grandes tiges et sont résistants aux ravageurs de la pourriture des nervures médianes. Le projet de recherche sur une nouvelle variété de sorgho actuellement développée par BRIN se déroule à Gorontalo et Maros. Il existe environ 50 souches d'essais préliminaires de rendement du sorgho sucré. Sur les 50 souches, plusieurs souches ont des niveaux de sucre allant jusqu'à 20% et 10 souches ont été sélectionnées pour l'évaluation des résultats de tests de données supplémentaires. Brin collabore avec des entreprises privées dans le projet de développement de nouvelles variétés de sorgho sucré. L'entreprise privée collabore avec le Japon pour construire une usine de bioéthanol à Gorontalo. La principale récolte de la nouvelle variété de sorgho sucré sera la sève et la biomasse pour un carburant alternatif à faibles émissions de carbone. C'est Juritop, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, le saté fait partie d'une variété de délices culinaires indonésiens faciles à trouver dans diverses régions du pays. Le saté est fabriqué à partir de poulet, de chèvre ou de bœuf, coupés en petits morceaux et embrochés avec des bâtons de bambou, puis grillés au charbon de bois. Habituellement, le saté est servi avec une sauce aux arachides, alors que le saté est généralement fabriqué à partir de viande. À Serang, Bantal, il existe un saté à base de chano. Ce saté est largement connu sous le nom de saté bandeng ou saté de poisson lui. Ces rites, comme le saté en général, saté bandeng utilise également des brochettes de bambou comme identité. La particularité est qu'il y a de la viande de chano entière qui est coincée dans le bambou, mais la viande est désossée. C'est très savoureux et riche en épices. Il n'est pas difficile de trouver saté bandeng dans la région de Banten. Le prix d'un saté est de 45 000 rupiah avec un choix de saveur épicé et original. Selon une histoire, saté bandeng était présent lorsqu'un sultan voulait manger du chano. Cependant, le chef royal était kung-fu car le poisson avait de nombreuses fines épines et était dangereux s'il était transformé directement. Finalement, le chef a pris l'initiative d'écraser la chair du poisson et d'en retirer d'abord les arêtes et les épines, puis la chair du chano a été écrasée et filtrée pour séparer les arêtes et les épines d'or. Cette viande finement hachée est mélangée à des épices pour former une pâte avant d'être mise dans du bambou et grillée jusqu'à ce qu'elle soit cuite. Ce nouveau plat s'est avéré être apprécié du sultan et d'autres hauts fonctionnaires. Enfin, le saté bandeng est devenu à l'époque l'un des aliments obligatoires du peuple banten et continue d'être hérédité jusqu'à ce jour. Au fil du temps, ce saté n'était pas seulement apprécié par la noblesse. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre attention. À bientôt.
Rasanya cinta, oh ini.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter le ministère des Affaires maritimes et de la pêche développe un système de recyclage de l'eau pouvant être surveillé à partir des smartphones. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, par l'intermédiaire de l'Agence de vulgarisation et de développement des ressources humaines du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, a réussi à développer un système d'aquaculture en recirculation, ou RAS, du poisson tilapia srikandi basé sur l'Internet des objets. Le chef de l'Agence de vulgarisation et de développement des ressources humaines du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, M. Inyoman Radiarta, a déclaré que le système d'aquaculture en recirculation est une technologie qui traite le recyclage de l'eau de culture pour la réutilisation. Le recyclage de l'eau passe par des étapes de filtration mécanique et biologique, ainsi que par l'élimination des matières en suspension et des métaboliques. Le développement de cette technologie a été connecté au système d'exploitation Android, facilitant ainsi le contrôle de la qualité de l'eau de culture. Inyoman Radiarta a déclaré que le système d'aquaculture en recirculation donne la priorité à un système de culture efficace et efficient pour produire du tilapia srikandi supérieur, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse lundi 8 janvier 2024. Inyoman a ajouté qu'actuellement son parti a réussi à combiner l'utilisation de technologies RAS basé sur l'Internet des objets. L'Internet des objets du tilapia srikandi est une innovation basée sur la technologie de communication sans fil qui se connecte pour mesurer les paramètres de qualité de l'eau de la culture du tilapia srikandi sur le lieu de culture. Nyoman a déclaré que l'Internet des objets du tilapia srikandi traite les données des capteurs de qualité de l'eau de culture envoyées via le serveur. Et ensuite, les données sont affichées sur un smartphone via une présentation graphique et un tableau de bord de la qualité de l'eau d'élevage de tilapia de srikandi. Cette technologie permettra aux agriculteurs de contrôler plus facilement la qualité de l'eau qui constitue un instrument important dans la culture de tilapia de srikandi. Le directeur de l'Institut de recherche sur la pisciculture, Monsieur Sukamdhani Agus Cahyadi espère que l'innovation produite par son parti pourront simplifier le processus de culture de tilapia de Sri Kandi effectué au BRPI Sukamdhani. Agus espère également que cette innovation pourra être appliquée ailleurs. Le tilapia Sri Kandi, tel que l'amélioration de la résistance à la salinité du tilapia de Sukamdhani, est l'un des produits de qualité supérieure du BPPSDM. Le tilapia Sri Kandi est un poisson de qualité supérieure résultant de l'élevage et de la technologie RAS utilisant de l'eau de culture à une salinité de 10 jusqu'à 15 parties pour 1000. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Abang tepati janji, jumpai ade yang baik hati.
Duhai abang, ku ingin tahu, adakah gadis yang menantimu?
Dengarlah ade yang baik hati, sungguh pun abang masih sendiri. Senang pekan depan abang kan datang. Sendiri.
Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Bolehlah kita berjumpa lagi. Bolehlah kita berjumpa lagi.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson rap de l'Indonésie intitulée Bebas. Sur Twitter, Iwakei, rappeur et pionnier de la musique rap en Indonésie. En fait, Iwakei est impliqué dans la musique rap depuis les années 1980. Cependant, il n'a réussi à introduire la musique rap en Indonésie que dans les années 1990. Il a fait ses débuts dans l'industrie musicale indonésienne en sortant son premier album intitulé Ku Ingin Kembali, sorti en 1993. Même si le nom de Iwakei s'est fait connaître dans les rangs de la musique rap, qui à cette époque était encore relativement nouvelle grâce à cet album. Son nom a commencé à monter en flèche après la sortie de son deuxième album en 1994. Cet album, intitulé Topeng, contient l'une des chansons phares intitulée Bebas. La chanson Bebas, créée par Iwakei, encourage et rappelle à chacun de ne pas penser longtemps aux problèmes. La chanson Bebas elle-même peut encore être entendue sur plusieurs sites de streaming musical et constitue souvent l'une des recommandations pour les meilleures chansons d'Indonésie. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Bebas, chantée par Iwakei. Bonne écoute!
Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang benar miman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Dididididom, dididom, degedegan daga digiduk.
Bebas, lepas,
anak kecil yang berlari bertanjang bebas. Keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, gadaku berdentang. Didi dom, deg-degan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.